Alors, cher Jean-François Villetter, mesdames, messieurs, chers membres, c'est évidemment un redoutable privilège que d'avoir à introduire la conférence de ce jour. En effet, que l'on doive présenter Jean-François Villetter est déjà un exercice risqué, tant sa carrure de sinologue reconnue et estimée impressionne. Qui plus est, la chose devient encore un peu plus complexe quand on était son élève à l'unité des études chinoises, comme nombre d'entre vous ce soir. Pour celles et ceux qui ont eu la chance de suivre son enseignement et celui de son épouse Wen, malheureusement disparue bien trop tôt, on connaît sa rigueur, son niveau d'exigence, mais en même temps, cette extraordinaire capacité à transmettre à autrui la curiosité, l'interrogation, la recherche passionnée, le sens du détail et de la précision, l'humilité, le sentiment que ce que nous apprenons, parfois bien péniblement, il n'y a qu'à voir les dictionnaires que j'ai encore chez moi qui ont l'air d'être passés sous un trax, à force d'être utilisés, donc nous apprenons parfois bien péniblement, nous dépasse, mais nous enrichit tout à la fois. Vous l'aurez compris, ce n'est vraiment pas le moment pour moi de faire le malin devant vous et devant le professeur Villetter, ou comme le disent les Chinois, pan men nong fu, n'est-ce pas, ce qui revient à dire tenter de manier la hache devant la porte du charpentier Lu Ban, n'est-ce pas, ou ce qui revient à dire c'est apprendre aux poissons à nager. Dans le papillon qui présente la conférence, vous avez déjà pu prendre connaissance de la trajectoire riche, originale et unique de Jean-François Villetter. Celle-ci et les travaux réalisés au long des années dans maints domaines ont d'ailleurs été couronnés l'année dernière par le prix culturel de la Fondation Lennart. Cette reconnaissance, une première attribuée à un sinologue de ce pays, nous a tous réjouis. Depuis de nombreuses années, les contacts entre la Suisse et la Chine se sont multipliés et approfondis. Mais souvent, nous, qui sommes la tête dans le guidon, sommes dépourvus des moyens de comprendre ce qui se transforme, ce qui persiste, ce qui est latent ou en plein essor. Dans le monde chinois, ce qui nous rapproche et nous éloigne de lui. Jean-François Villetter a beaucoup réfléchi à ces questions. Il a senti, par exemple, très tôt que les notions de voisinage allaient être bouleversées. Nous appelons notamment dans un article paru dans le Nouveau Quotidien en 1994 déjà à apprendre le chinois et le japonais, les langues de nos voisins. On relira un autre article il y a aussi 20 ans, intitulé « La Chine n'est pas qu'un marché », dont voici les dernières lignes. Il faut aussi tenir compte des problèmes auxquels la société chinoise est confrontée en cette fin de siècle. Instabilité politique, faiblesse des institutions légales, c'est un euphémisme, absence de contrôle démocratique, inégalité sociale grandissante, pollution de plus en plus grave de l'environnement, etc. À cause du poids de la Chine, ces problèmes pèsent lourd à l'échelle de la planète. C'est évidemment aux Chinois de les résoudre. Je pense qu'une véritable compréhension de notre part pourra parfois les aider. Je pense aussi que les efforts faits en Suisse pour créer cette compréhension sont encore très insuffisants. Il faudra bien y revenir. Voilà pourquoi il me tarde de laisser la parole à notre conférencier de ce soir, en le remerciant vivement de nous donner l'occasion de partager ses réflexions actuelles et inactuelles. À toi, Jean-François.
Alors, grand merci pour ces aimables paroles qui m'embarrassent passablement. Mais je passe et je vous salue, mesdames, messieurs, chers amis. Vous pensez peut-être qu'un sinologue est quelqu'un qui sait tout sur la Chine, qu'il pourrait en parler avec facilité, et que s'il ne le fait pas, c'est qu'il est paresseux, ou timide, ou compliqué, paralysé par on ne sait quel scrupule. Dans mon cas, la raison est différente. Elle est que je m'intéresse à des questions qui sont éloignées de celles qui agitent l'opinion. Cela signifie-t-il que je me désintéresse du présent ? Bien au contraire, mais je le fais d'une façon inactuelle, si je puis dire. je constate que depuis que j'ai commencé à m'intéresser aux études chinoises il y a 50 ans, elles se sont développées de façon extraordinaire, mais avec un effet très réduit, voire nul dans certains domaines, sur les idées que le public, même le public cultivé, se fait de la Chine, de son histoire et de sa civilisation. Cette non-communication a des causes que je pourrais analyser longuement. Je m'en tiendrai à quelques points. J'ai le sentiment que le passé chinois est comme oblitéré. Il l'est pour moi quand je pense à ce qu'était Pékin lorsque j'y suis arrivé pour la première fois en 1963, lorsque le Transsibérien lentement longeait les murs de la ville sur le flanc ouest et qu'on voyait défiler les portes, qu'ensuite en ville il n'y avait quasiment personne, que toutes les grandes avenues que j'ai parcourues tout de suite se terminaient à l'est et à l'ouest, au nord et au sud, toujours par une grande porte. On mesurait tout de suite ce qu'avait été Pékin, capitale d'un empire pendant 800 ans d'affilée. L'habitat traditionnel qui remonte à l'époque mongole, qui remontait à l'époque mongole, était quasiment intact. Dans les ruelles, des nuées d'enfants jouaient de façon bruyante. Lorsqu'on passait les murs, on est quasiment tout de suite à la campagne. À l'université de Pékin, on entendait les crapauds la nuit dans les rizières, ils faisaient un bruit fou. Dans les boutiques, tout le monde calculait sur des bouliers, avec une dextérité stupéfiante. Lorsque les boutiques avaient des annonces, des enseignes, elles étaient écrites par des artisans calligraphes qui maniaient de grands pinceaux et qui écrivaient admirablement. La nuit, on voyait des cortèges de chars tirés par chaque fois un âne et un cheval chargés de choux, le cocher dormant au sommet du tas. Et c'est ainsi que la capitale était approvisionnée. J'ai encore vu des chameaux apporter du charbon de Mongolie sous les murs de Pékin. Évidemment que tout ça est passé. Est passé non seulement à Pékin, mais dans la plus grande partie de la Chine. Mais aujourd'hui, le passé est oblitéré d'une autre façon. L'histoire n'a de sens que si elle est interprétée et donne lieu à un récit. En Chine même, j'ai vu le récit se transformer plusieurs fois au fil des années. Le moment le plus intéressant ont été les années 80, quand les intellectuels ont pu débattre publiquement de questions fondamentales, notamment sur celle de la continuité entre la Chine d'ancien régime et son système mandarinal d'une part, et le nouveau régime de l'autre. Cette question et d'autres questions apparentées ont suscité un grand intérêt dans une partie de l'opinion chinoise de l'époque. Après la répression du soulèvement démocratique de 1989, lorsque le régime est devenu ouvertement réactionnaire, ces discussions ont été brutalement interrompues et n'ont pas repris depuis, du moins pas dans la sphère publique. L'actuelle propagande sur la grandeur passée de la Chine et sur l'excellence de sa culture traditionnelle est intellectuellement creuse, mais n'est pas idéologiquement neutre. Elle est un interdit jeté sur la pensée critique. Le miracle économique qui a stupéfié le monde depuis une vingtaine d'années a aussi puissamment contribué à effacer le passé. D'abord, parce qu'il a créé une réalité entièrement nouvelle, mais aussi parce qu'il a imposé le discours économique comme le seul discours pertinent sur la Chine. Ce sont les hommes d'affaires qui ont donné le ton. Le développement rapide d'une société de consommation calquée sur la nôtre a encore réduit l'écart, en apparence du moins, entre les Chinois et nous, et réduit d'autant notre curiosité Désormais, quand surgissent des difficultés de compréhension entre nous et nos interlocuteurs chinois, la tendance est de les expliquer par des cultures différentes. Et d'oublier que ces cultures ne peuvent être comprises que par l'histoire qui les a produites. Sans l'histoire, le recours aux cultures ne fournit que des explications pauvres. L'oblitération de l'histoire ou son escamotage crée une sorte de manque que beaucoup ressentent et ne parviennent pas à nommer, une perplexité dont ils ne voient pas la cause. Je ne pense pas en premier lieu à tous ceux qui ont quotidiennement affaire à la Chine, aux hommes d'affaires qui font des affaires, aux journalistes qui analysent quotidiennement son évolution, aux sinologues qui sont tout à leur recherche, aux étudiants qui apprennent la langue, aux spécialistes en tout genre qui pratiquent des échanges avec leurs homologues chinois. Je pense plutôt à ceux qui sont plus en retrait, comme je le suis moi-même aujourd'hui, et qui, face à la Chine, ressentent un certain malaise qu'ils ne savent comment formuler. Lorsqu'ils se tournent vers les sinologues, ils sont généralement déçus. Ils ne trouvent pas chez eux de réponse à leurs questionnements. Ils sont même parfois saisis d'un doute et se demandent à quoi servent les sinologues, ou si cette appellation correspond encore à quelque chose, car ils ne rencontrent guère que des spécialistes, connaisseurs de la philosophie ancienne, historiens de telle période, autorités en matière de religion chinoise, ou aujourd'hui, un économiste, un sociologue, un politologue, un juriste. Autant de spécialistes qui se bornent chacun à son domaine et parlent son langage. Je me suis souvent demandé si le terme de sinologue ne devait pas être abandonné au profit de dénominations précises qui correspondent au travail, à la division actuelle du travail académique. Eh bien, réflexion faite, je considère qu'il faut encore des sinologues. Mais qu'il faudrait donner à ce terme un sens nouveau. Je définirais le sinologue comme celui qui est capable de franchir la barrière de la langue et d'aider les autres à la franchir. Franchir la barrière de la langue comme on franchit la barrière du corail quand on quitte un atoll. La belle affaire, me direz-vous. N'y a-t-il pas de plus en plus d'Occidentaux qui apprennent le chinois et qui le parlent de mieux en mieux? N'avons-nous pas affaire à de jeunes générations de Chinois qui parlent très bien nos langues, en particulier l'anglais? Cette situation nouvelle facilite certes les contacts, mais seulement à un niveau superficiel. Par en dessous, la barrière subsiste, pratiquement inentamée. Mais pour s'en apercevoir, il faut plonger. Il faut toucher aux mots-clés qui sont chargés d'histoire, qui résument certains aspects de la sensibilité, qui structurent les relations sociales et la personnalité morale, ainsi que toute la pensée traditionnelle. Or, ces mots-là, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on ne les rencontre que dans la langue de l'autre. Tant que nous parlons notre propre langue avec nos amis chinois, ou nos partenaires, ou nos collaborateurs, elle forme comme un miroir qui nous renvoie notre propre image. C'est comme si nous nous mirions dans la surface de l'eau, à la manière d'un narcisse, sans voir ce qu'il y a sous la surface. Or, sous la surface, il n'y a pas des profondeurs glauques, mais un autre monde structuré par un autre langage, héritier d'une autre histoire, tout simplement. Ne croyez surtout pas qu'en me servant de telles images, je veuille suggérer que cet autre monde est inatteignable ou en quoi que ce soit mystérieux. Non, mais je cherche à montrer de quel ordre sont les vraies difficultés pour qu'on leur apporte de vraies solutions et rende possible une vraie compréhension. À nouveau dans les deux sens. Je vais montrer par quelques exemples à quel point les mots sont chargés d'histoire. Zhangbei et Wanbei sont deux mots courants chinois. Le premier désigne la génération aînée dans une famille, le second la génération cadette. Tout récemment, le premier jour de l'année du cheval, j'ai téléphoné à une nièce de ma femme. La nièce habite Taïwan. Elle était absente et c'est son mari taïwanais qui a décroché. J'appelle pour te souhaiter bonne année, lui ai-je dit. Et il m'a répondu, mais c'est impossible, on n'a jamais vu Zhangbei, la génération supérieure, prendre les devants pour souhaiter la bonne année à Wanbei, la génération cadette. C'est le monde à l'envers. C'était dit en riant, mais ça n'était pas anodin. Mon épouse, née à Pékin, est devenue avec le temps une avocate convaincue des valeurs démocratiques suisses, mais le fond chinois ressurgissait parfois. Lors d'un conflit avec un neveu, et comme ce conflit lui causait des soucis, je lui ai dit « Allons, fais un geste ». Sur quoi elle m'a répondu sur le ton le plus déterminé « Pas question, je suis Zhangbei, c'est à Wanbei, la génération cadette, de faire le premier pas ». Nous étions soudain dans un vrai conflit de valeurs. Pour moi, c'était à la personne la plus âgée, réputée la plus sage, à prendre l'initiative. Mais non, la hiérarchie des générations primait. Cela offusquait ma conception chrétienne du pardon, mais je n'ai pas eu gain de cause. Ce qui est intéressant, c'est que ce respect de la hiérarchie familiale vient de très loin. Elle remonte à un événement historique ancien, celui de la création de l'organisation de l'aristocratie chinoise, la classe dirigeante de la dynastie des Zhou aux environs de l'an 1000 avant notre ère. Cette organisation était indistinctement familiale, religieuse et politique. Dans sa terminologie, elle était familiale. Dans la grande famille aristocratique, toutes les relations étaient hiérarchiques, donnant toujours à l'un le pouvoir, ou du moins la préséance, sur l'autre. On peut dire que cette extraordinaire création est devenue l'une des matrices de la civilisation chinoise. On en trouve un signe dans le fait qu'encore aujourd'hui, il n'y a pas un mot pour frère, mais deux. Il y a « que » ou bien « xiong » pour le frère aîné, il y a « di » pour le frère cadet. Quand on traduit en chinois la devise de la République française « fraternité », on traduit par « xiong di », qui signifie littéralement « les grands frères et les petits frères ». Il n'est pas exagéré de dire que toutes les relations humaines sorties de cette matrice sont hiérarchiques, au point que le phénomène humain élémentaire n'est pas un atome, mais un binôme hiérarchisé. L'autre grand principe est celui de la lignée, dont je ne dirai rien maintenant. Vous voyez que, comme une toute petite quantité de matière suffit aux chimistes pour analyser une substance, quelques mots suffisent aux sinologues pour remonter très haut dans l'histoire. Voici maintenant un autre cas de figure, celui d'un mot dont nous nous servons pour parler de la Chine et qui nous induit en erreur, le mot « confucianisme ». Ce mot nous fait croire qu'il s'agit d'une doctrine remontant à Confucius, alors que le terme chinois « Rujia » R-U-J-I-A, ne comporte pas de référence à la personne de Confucius. Il désigne une tradition lettrée, ou plus exactement savante, car centrée sur l'étude de textes anciens, qui a fourni à l'Empire l'idéologie dont il avait besoin pour se justifier et pour durer. Cette idéologie impériale a pris forme des siècles après la mort de Confucius, mais s'est réclamé de lui et a fait de lui son saint patron. C'est à ce titre qu'on peut la qualifier de confucianiste. Il s'agit d'une idéologie profondément conservatrice, fondée sur le respect des hiérarchies et notamment sur les sacro-saints Sangang, les trois principes, que sont la soumission du sujet au prince, du fils au père et de la femme à son époux. En comparaison, le Confucius historique apparaît comme un personnage fort libre et peu conventionnel, somme toute assez attachant, qui, après avoir échoué dans ses ambitions de réformateur, a tenté d'agir en se faisant éducateur. De cette belle indépendance, il n'est plus question dans l'idéologie impériale qui s'est réclamée de lui. Et c'est contre cette idéologie conservatrice que s'est élevée la jeunesse estudiantine chinoise lors du grand mouvement de mai 1919, qui a été le véritable coup d'envoi de la révolution contemporaine. Que les instituts que l'actuel gouvernement chinois s'efforce d'implanter partout s'appellent Institut Confucius est la marque évidente de ce que la Chine est aujourd'hui dans une phase de restauration idéologique. Mais j'en reviens au problème terminologique. Parler tout uniment de confucianisme, là où les Chinois eux-mêmes utilisent un tout autre terme, ou plus exactement plusieurs autres termes permettant de faire d'indispensables distinctions, nous empêche d'appréhender l'histoire et les prolongements que l'histoire a dans le présent. Les sinologues savent tout cela. Mais le public plus éloigné de la Chine l'ignore et reste plongé dans un vague sentiment d'incompréhension impuissante. Des remarques analogues pourraient être faites à propos du taoïsme, qui est un terme tout aussi simpliste et trompeur, qui confond ce que l'on désigne en chinois avec raison par 5 ou 6 termes différents. Il me semble donc que le sinologue peut faire œuvre utile en clarifiant le sens des mots, mots chinois et mots d'ici. Je crois qu'il peut aussi aider le public d'ici à comprendre les causes de cette sorte d'embarras non formulé qu'il ressent face à la Chine. Cet embarras tient pour une bonne part à l'oblitération de l'histoire dont j'ai parlé au début. La Chine est en panne de récits. Elle l'est d'abord sur le plan intérieur. Le régime ne peut tenir un langage de vérité sur ce qui s'est passé depuis sa fondation en 1949 et ne tolère pas qu'on le fasse à sa place ou qu'il y ait un débat public sur cette histoire. À l'époque où j'ai fait mes études à Pékin, dans les années 60, la saga révolutionnaire d'avant 1949 avait encore tout son prestige. Elle est bien usée maintenant, elle ressemble à une vieille relique que l'on continue à exhiber dans certains rituels figés. Les grands moments du vrai mouvement ouvrier chinois dans les années 20 et l'extraordinaire floraison de la pensée critique et de la remise en cause du passé qui a caractérisé les années 20 et 30 ne sont plus évoqués. Et pour cause. Il reste un récit dont le régime use et abuse, c'est celui des horreurs de l'invasion japonaise. Il en est un autre, celui de la grandeur passée de la Chine, censée revenir bientôt, mais il s'agit d'un rêve plutôt que d'un récit, car le régime se garde bien de préciser quels furent exactement les ressorts de cette grandeur passée. Un autre rêve est celui de la démocratie, que le régime est obligé de promettre, car il ne sait que promettre d'autres sur le plan politique. Mais en pratique, il fait tout ce qu'il peut, du moins pour le moment, pour que ce rêve soit pareil à un horizon qui recule à mesure qu'on s'avance vers lui. Certains d'entre vous m'objecteront que beaucoup d'intellectuels chinois ont une conscience aiguë de cette impasse et discutent beaucoup entre eux. Vous m'objecterez aussi qu'une lutte incessante se livre entre le régime qui ne veut pas de la vérité sur l'histoire récente et ceux qui la veulent, et que les fronts ne cessent de bouger. Mais vous savez aussi que le régime définit les lignes à ne pas dépasser et sévit quand elles le sont. Il y a aussi la difficulté intrinsèque des problèmes posés, qui fait que les intellectuels ont souvent de la peine à se mettre d'accord entre eux. Un essayiste que j'aime beaucoup, Li Ling, archéologue et historien de la Chine ancienne, professeur à l'Université de Pékin, raconte dans l'un de ses livres récents comment il a été invité, avec d'autres éminents historiens, à débattre en petit comité de la façon dont devait être présentée l'histoire chinoise dans le Musée national d'histoire de la place Tiananmen, qui était alors en réfection. Ils n'ont pas pu se mettre d'accord ni sur la périodisation, ni sur la terminologie. De sorte que les objets exposés dans ce musée, depuis sa réouverture, ne disent rien faute de récit. À la suite de la votation du 9 février, Le Temps a publié un excellent article d'Andreas Saurer, un psychanalyste, intitulé « Les Suisses de 1291 et ceux de 1848 se retrouvent face à face ». L'article était une réponse à la saillie si révélatrice de Blocher sur la conscience nationale plus faible des romans. L'idée qu'un citoyen suisse se fait de lui-même et de la société dans laquelle il vit, disait l'auteur de l'article, varie du tout au tout selon qu'il situe l'origine de cette société en 1291 ou en 1848. Dans le premier cas, la Suisse romande en est exclue. Dans le second, elle en est une partie importante. Ce genre de débat est essentiel. Il est essentiel qu'il ait lieu pour que nous comprenions qui nous sommes et puissions déterminer ce que nous voulons. Les débats de même nature sont essentiels en Chine. Mais là-bas, les implications sont si dramatiques, pensez au Tibet, que le pouvoir les interdit ou les soumet, quand il les admet, à une très vigilante surveillance. Cette situation crée une frustration dont nous ressentons les effets jusqu'ici, généralement sans comprendre d'où elle vient. L'absence de récits suffisamment convaincants de l'histoire chinoise, m'a incité à en définir un moi-même. Pour l'enseignement, mais surtout pour moi, par besoin de comprendre. À un certain moment, un récit a pris forme et je l'ai formulé dans un essai qui constitue la seconde partie d'un petit ouvrage intitulé « Chine trois fois muette ». Mon fil conducteur est une certaine conception du pouvoir dont j'ai déjà parlé, apparu vers l'an 1000 avant notre ère, qui a évolué au fil des siècles en s'adaptant à de profonds changements économiques et sociaux, mais dont quelques invariants ont subsisté jusqu'à nos jours. De sorte que mon bref essai, auquel je ne retrouve rien à dire lorsque je le relis 15 ans plus tard, constitue aussi une contribution à la philosophie politique. Car la forme chinoise du pouvoir s'ajoute aux formes classiques du despotisme, de la monarchie et de la république. Il est un despotisme, certes, mais d'une nature particulière qui n'est pas facile à comprendre pour nous, du moins pas au premier abord, parce qu'il repose sur des idées qui ne nous sont pas familières. Je cite brièvement cet essai, un petit extrait. Les fondateurs des Zhou, donc vers l'an 1000 avant notre ère. Les fondateurs des Zhou ont instauré un régime divisé en deux sphères. Une sphère supérieure, celle de l'aristocratie, minutieusement hiérarchisée, étroitement unie par sa savante répartition des privilèges, ses liens familiaux, ses rites, et une sphère inférieure, celle de l'ensemble des populations soumises, fort différentes les unes des autres par leurs institutions sociales, leurs coutumes et leurs pratiques religieuses. Elles étaient libres de vivre comme elles l'entendaient, à la condition de rester soumises. De nouveau, les Zhou ne se sont pas contentés d'établir une domination de fait, ils ont créé un ordre qui est devenu l'un des fondements de la civilisation chinoise, un ordre dont on retrouve l'empreinte dans la représentation du monde et jusque dans les catégories de l'entendement chinois. Nous pourrions dire, en des termes qui nous sont familiers, que la sphère supérieure, une et dominante, a représenté à partir de ce moment-là l'universel, et la sphère inférieure, divisée et diverse, le particulier. Les catégories chinoises qui rendent compte de ce rapport sont le ciel et la terre, ou le yang et le yin. En haut, le ciel ou le yang, qui est unifié et qui domine le divers en l'organisant. En bas, la terre ou le yin, qui est désuni, qui tend au désordre et qui a besoin d'être organisé. Pour comprendre les deux notions de yin et de yang, il faut s'être aperçu qu'elles sont au fond des catégories sociopolitiques. On n'a pas encore suffisamment mesuré, me semble-t-il, à quel point le monde chinois a été marqué dans ses institutions, dans ses représentations et jusque dans les catégories de son entendement par cette division de la réalité sociale en deux parties de nature différente, liées entre elles par des interactions aux formes asymétriques et mouvantes. Je ne serais pas étonné que l'on découvre un jour, dans cette division, un principe structurant aussi déterminant dans le monde chinois que le principe des trois fonctions que Georges Dumézil a cru apercevoir dans le monde indo-européen. En reconnaissant ce principe, on ne niera nullement le caractère pleinement historique du passé chinois. Au contraire, on comprendra beaucoup mieux cette histoire parce qu'on la saisira enfin selon ses propres catégories. On verra comment plusieurs fois, après de grandes transformations technologiques, économiques et sociales, s'est recréé un ordre qui était chinois parce qu'il était fondé sur cette division. Le premier grand ordre de ce genre a été la royauté aristocratique des Zhou, le deuxième, l'empire bureaucratique fondé par Qin Shi Huang, le premier empereur, le troisième, l'empire aristocratique des Tang, puis mandarinal, des Song, des Ming et des Qing. Le régime actuel repose sur les mêmes bases. Le Parti communiste chinois a rétabli, une fois de plus, la division traditionnelle de la société en deux sphères, mais cette fois-ci, le croisement de la tradition chinoise avec la tradition bolchevique et d'autres éléments de provenance occidentale a produit un mélange instable dont l'avenir est incertain. Je pense que pour donner un sens à l'histoire chinoise, nous ne devons pas seulement réunir les faits de façon à ce qu'ils forment un récit cohérent, mais placer ce récit en regard du récit que nous faisons de notre propre histoire, et donc de les placer les deux dans un même champ, qui ne peut être que l'ébauche d'une histoire universelle. C'est dans ce sens-là qu'est allée ma réflexion. J'ai eu le sentiment de découvrir quelque chose lorsque, il y a quelques années, Mu Zhongjian, professeur d'histoire de philosophie chinoise à l'Université des nationalités de Pékin, m'a offert un petit livre qu'il venait de publier avec l'un de ses collègues, publié aux presses de l'École centrale du parti. Cet ouvrage était une proposition, voire un programme. Il présentait 85 œuvres allant des origines à la fin de la dernière dynastie impériale, au début du XXe siècle, 85 œuvres qui constituaient, selon les auteurs, la fine fleur de ce que la civilisation chinoise avait produit dans le domaine de la philosophie, des lettres, de l'historiographie, des sciences. Et qu'idéalement un jour, donc les œuvres, qu'idéalement un jour, tout citoyen chinois cultivé devrait connaître. Une liste restreinte de 10 ouvrages constituait le minimum requis. Je me suis intéressé à cette liste et j'ai eu l'idée de regarder comment ces 85 ouvrages essentiels se répartissaient dans le temps, à l'échelle des siècles. Il en est résulté un tableau extrêmement intéressant dont ressortait un fait massif. Sur les 85 ouvrages retenus, seuls 12 étaient postérieurs à 1600 et 5 seulement postérieurs à 1700. Le choix des auteurs pouvait certes être discuté et modifié dans une certaine mesure, mais le fait est là et sa signification apparaît si l'on superpose à la courbe chinoise une courbe comparable des ouvrages européens qui comptent pour nous. Pendant ces mêmes siècles, c'est en Europe une courbe ascendante qui représente la naissance et le développement de l'âge moderne et aux figures Descartes, Spinoza, Locke, Hume, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Constant, Tocqueville, Marx, Hegel, Nietzsche et tant d'autres, pour m'en tenir uniquement au domaine philosophique et politique. Nous oublions volontiers que beaucoup d'idées sur lesquelles nous vivons n'ont pas toujours existé et qu'elles viennent de ces penseurs. Pendant les mêmes siècles, la vie intellectuelle chinoise a certes été animée, mais n'a pas produit d'idées utiles aujourd'hui. C'est un fait qu'il faut reconnaître. Voilà, j'ai touché en peu de temps plusieurs problèmes, en les simplifiant avec une audace, voire une témérité, que mes amis sinologues ici présents me reprocheront peut-être ou qu'ils excuseront, je ne sais pas. L'un des points a été l'absence de récits et les causes de cette absence. Un autre a été l'indispensable clarification du sens des mots et la difficulté de vraiment traverser la barrière du langage. Un troisième a été la spécificité de la tradition politique chinoise. Je n'ai pas du tout parlé du problème que pose la transition, bien entendu souhaitable, de cette conception traditionnelle du pouvoir à une société démocratique. Un quatrième point était la question du confucianisme. Bref, il y avait une infinité de choses à dire. J'en ai choisi quelques-unes. Je ne sais pas si j'ai bien choisi, mais enfin, telle est ma contribution d'aujourd'hui. J'ajoute, pour terminer, que plus j'étudie la Chine, plus je me sens européen, ce qui ne diminue pas mon intérêt pour la Chine, du tout. Et puis peut-être aussi pour revenir au point de départ, on peut se poser des questions qui sont très loin de celles qui agitent l'opinion et qui, cependant, ont directement trait au présent.